présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes. Les derniers développements. Les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
OK, Carey Price vole 2 points aux Blue Jackets. C'est l'heure de la retraite pour Alex Harvey et Georges St-Pierre. Et au tournoi Pee-Wee, les anciens de la LNH devenus entraîneurs mènent leur équipe à la victoire.
Canadien Blue Jackets, Thompson a gagné les derniers enjeux. Fois avec Douin, la passe transversale coupée. Le tir est bon. Tony sur un retour de lancer. Tire de l'enclave, il a raté de peu. Retour de Douin, goal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2044, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'action dans le monde du sport, évidemment le tournoi Pee-Wee qui continue de battre son plein au Centre Vidéotron jusqu'à dimanche. Mais la journée de samedi, si vous voulez mon avis, est plus intéressante que celle de dimanche. Ah ouais, mais là Dan, dimanche ils donnent des trophées puis des médailles, puis ouais je comprends. Mais il y a plus de matchs samedi. C'est plus intéressant le calendrier de samedi que celui de dimanche. Dimanche, il y a moins de matchs. Je vais aller plus souvent dans les dernières années le samedi que le dimanche au tournoi Pee-Wee. Et au moment où je vous parle, les mini-nordiques sautent sur la patinoire contre une équipe du Nouveau-Brunswick qui l'avait emporté il y a 2 ans dans une catégorie inférieure, les Pionniers de Nord-Ouest. C'est une grosse organisation de hockey qui nous arrive du Nouveau-Brunswick. Et c'est cette équipe qui affronte les mini-remparts à l'instant même. Le Canadien a gagné hier. Évidemment, on est mercredi, on va jaser avec Simon Gagné. On va jaser également avec Will, notre collègue, qui a rencontré peut-être pas son idole de jeunesse, mais une de ses idoles de jeunesse ce matin au Centre Vidéotron, en Jarome Iginla. Jarome Iginla dirige les Eagles, les Boston Junior Eagles. Ils ont gagné d'ailleurs aujourd'hui, vous pourrez les voir jouer vendredi matin 9h15, ici même au Centre Vidéotron. On va jaser de cette rencontre qu'a fait Will avec Jarome Iginla plus tard. Et il a fait une entrevue avec lui qui va nous présenter également plus tard. Et c'est l'heure de la retraite pour Georges St-Pierre. On va revenir sur cette retraite plus tard dans l'émission. Ce sera annoncé demain, mais on va quand même s'y arrêter ce soir parce que Georges St-Pierre a à tout le moins marqué son sport. Et Alex Harvey également qui annonce sa retraite aujourd'hui, 30 ans. Alex Harvey va participer aux épreuves de Coupe du Monde ici sur les plaines du 22 au 24 mars prochain. Après quoi, il va faire un point de presse 2 jours plus tard pour annoncer qu'il va faire autre chose dans la vie que du ski de fond. Une nouvelle de dernière minute qui surprend un peu tout le monde dans la Ligue nationale de hockey, c'est le Wild du Minnesota qui dit à Charlie Coyle, « Mais Charlie, t'es bien fin d'avoir été à l'heure à notre rendez-vous pour prendre l'avion, mais toi, tu prendras pas l'avion. Tu vas retourner à la maison, puis on va te texter plus tard pour te dire à quelle équipe t'as été échangé. » Donc, j'imagine que c'est imminent, mais Charlie Coyle, le numéro 3, et petite parenthèse, numéro 3 pour un attaquant, c'est pas super. Fin de la parenthèse. J'aime mieux numéro 3 défenseur. Mais ça, c'est juste moi, là. Vous savez, j'ai des tocs. Ça, c'est peut-être un de mes tocs. Mais Charlie Coyle était revenu, souvenez-vous, dans les rumeurs de transactions avec le Canadien il y a 2-3 semaines. Est-ce que le mi-chemin entre aller chercher pas grand-chose puis aller chercher Panarin... Duchesne ou Huberdeau, c'est peut-être Charlie Coyle. C'est un gars qui, il y a quelques années, avait été très bon avec les Wildcats de Moncton. De mémoire, il avait même joué l'année où les Remparts ont gagné la Coupe Memorial en 2006. Je pense que Coyle évoluait avec les Wildcats. C'est un gars qui était supposé aller jouer dans les universités américaines. Il avait peut-être fait 1 an, puis il s'était amené avec les Wildcats de Moncton. Joueur offensif, gros bonhomme, droitier, Charlie Coyle s'est fait dire dans les dernières minutes par l'organisation du Wild qu'il ne devait pas prendre l'avion pour aller à New York parce que le Wild va affronter demain les Rangers de New York. Il sera donc échangé dans les prochaines heures, assurément. Probablement qu'on attend peut-être que l'équipe où Coyle sera échangé peut-être est en action ce soir, puis on ne veut pas annoncer maintenant qu'il est échangé à l'une des 8 équipes en action ce soir, puis on va peut-être faire ça en fin de soirée. C'est aux Bruins. On a la confirmation. OK, Bob McKinnon. Justement, mon idée de base n'était pas si folle, Will. Je disais que c'est une des équipes qui joue ce soir. Puis finalement, c'est les Bruins. Donc, les Bruins sont à Vegas ce soir, justement. Will me dit en temps réel, il suit ça sur Twitter. Bob McKenzie vient de confirmer que Charlie Coyle est échangé aux Bruins de Boston. Juste avant, on ne sait pas encore en retour de quel joueur ou quel choix de repêchage. Juste avant d'aller parler avec Simon Gagné, je veux vous dire que les Remparts ont perdu hier. Ils ont perdu une belle occasion d'impressionner des jeunes Pee-wee qui étaient allés les voir. Ils ont perdu en tir de barrage contre les Tigres de Victoriaville. Et dans ce match-là, Mathieu Sévigny, le fils le plus vieux de Pierre Sévigny, un maudit bon gars avec qui j'ai le bonheur d'arbitrer à l'occasion des matchs de hockey mineur, ben Mathieu a été blessé presque toute la saison. Il a marqué 2 buts hier. Et sur un de ces 2 buts, son frère Vincent a amassé une passe. Donc, pour la famille Sévigny, j'imagine que c'est une victoire un peu plus émotive, celle d'hier, contre les Remparts. Les Remparts ont perdu 6 matchs de suite. Ils sont à Shawinigan ce soir. On ne peut pas croire qu'ils vont perdre encore ce soir. Shawinigan, ce n'est pas une très bonne équipe de hockey. On me dit que Will, en temps réel, ça c'est le fun des transactions. Hey, jusqu'à lundi, ça va être de même. On dit que, moi, si là, je vous donne la transaction que Will vient de me donner, c'est pas confirmé à 100%. C'est Ryan Donato puis un choix de 5e ronde contre Charlie Coyle. Vous savez quoi? Moi, je donne immédiatement l'avantage au Wild dans cette transaction-là. Pas pour cette année, parce que Charlie Coyle, c'est un gros bonhomme qui peut avoir un bon fit avec les Bruins de Boston, puis il peut les aider peut-être à gagner une ronde ou deux. Mais Ryan Donato, moi, je trouve que c'est un excellent joueur de hockey. Il avait impressionné tout le monde l'année dernière en fin de saison. Cette année, ça a été plus difficile pour lui. Je pense que le Wild vient de faire un bon coup si jamais ça se concrétise et que ça devient Ryan Donato. Il y a un choix de 5e ronde en retour de Charlie Coyle.
L'avant-match. Voici Simon Gagné.
Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien toi, Dan?
Oui, ça va bien. Simon, c'est fascinant de regarder le classement de la Ligue nationale. Il y a une conférence dans l'Ouest où on a l'impression qu'il n'y a pas personne qui veut faire les séries. Puis dans l'Est, c'est corsé, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes impliquées dans la course. Dans la conférence de l'Ouest, il y a 4 équipes qui ont 59 points en date d'aujourd'hui. Puis ces 4 équipes-là ont encore une chance réelle de participer aux séries parce que le Wild du Minnesota a perdu 9 de ses 10 derniers matchs, puis ils ont juste 60 points. Y a-tu une analyse à dresser de ça?
Ben, c'est dur à comprendre. Je dirais, là, depuis au moins les 15 dernières années, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Là, c'est justement, j'en parlais aujourd'hui dans mon article NHL.com que c'est une course à 2 volets. Tu sais, c'est à 2 vitesses, on dirait. Tu sais, c'est dans l'Est. On dirait que c'est une course super rapide. Tu sais quasiment, ça va être qui va faire les séries, les 8 premiers. On va dire il y a 2 autres équipes qui se battent pour la 8e place, que tandis dans l'Ouest. Tu sais, je regardais à part les Kings de Los Angeles, même les Kings, ils pourraient partir sur une séquence de 8-9 victoires de suite, pourraient peut-être revenir dans la course aux séries.
Ouais.
Fait que c'est vraiment dur à comprendre. Puis tu sais, je regardais les Blues de Saint-Louis à la date, dans le mois de décembre, étaient derniers au classement dans la conférence de l'Ouest. Puis là, ils ont une place en série. Fait que tu sais, c'est... On n'aurait jamais vu ça l'année passée ou dans les 2 dernières années. On n'aurait jamais vu ça, une équipe qui part avec un début de saison terrible comme les Blues de Saint-Louis revenir dans la course aux séries. Puis là, même pas être dans la course des séries, ils vont peut-être devancer Nashville dans leur division. C'est que c'est vraiment inexplicable qu'est-ce qui arrive. Puis dans l'article, qu'est-ce que je disais? Ben, une équipe hot un peu comme dans l'Est, un peu comme les Blues de Saint-Louis, les Flyers de Philadelphie font un petit peu la même chose que les Blues de Saint-Louis dans l'Ouest, mais dans l'Est, ben ça va être difficile pour les Flyers. Ils vont manquer de temps. Les équipes en avant ont trop pris d'avance, tu sais. Fait que Les Flyers aimeraient ça être dans la conférence de l'Ouest. Eux autres seraient peut-être en train de se battre pour une place en série s'ils seraient dans la conférence de l'Ouest.
Simon, je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui viennent de t'entendre dire Saint-Louis va dépasser Nashville. Qu'est-ce qu'il dit là, Simon Gagné? Ça n'a pas de bon sens. Nashville puis Winnipeg sont bien en avant dans la division centrale. Un instant. Ce que Simon vient de dire, c'est tout à fait vrai. Les Blues, en date d'aujourd'hui, ont 6 points de retard sur Nashville, mais 3 matchs en main. Donc, les Blues de Saint-Louis, non seulement ils ont une place en série en date d'aujourd'hui, mais ils ont du lousse, là. C'est difficile de croire qu'ils vont manquer les séries. Est-ce que dans cette équation-là des Blues, faut donner du crédit au jeune Jordan Binnington, 25 ans, qui arrive dans la Ligue nationale cette année? D'abord, c'est quoi ton analyse de ce gars-là? Est-ce que tu as l'impression que ça peut devenir un feu de paille puis ça va devenir un Andrew Hammond où le gars pourrait s'établir comme un gardien numéro un dans les prochaines années avec les Blues? Puis dans quelle mesure la performance d'un gardien... J'ai beaucoup de questions dans la même question, là.
Ouais.
Simon, dans quelle mesure un gardien comme lui peut vraiment changer l'attitude d'un Tarasenko, d'un O'Reilly ou d'un Jaden Schwartz?
Regarde, j'ai même quasiment pas besoin de te répondre, tu sais, tu le vois. Regarde l'équipe, comment qu'il joue présentement. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance. L'équipe complètement changé leur attitude sur la glace, la façon de jouer. Les gars sont contents d'aller à l'aréna. Puis oui, il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, t'as Craig Berube qui est devenu l'entraîneur présentement en chef des Blues de Saint-Louis. Mais le gardien de but. Veux pas, pour moi, c'est. Je sais que c'est beaucoup de pression à mettre, mais je le dis souvent, ça passe souvent de là. Si ton gardien de but est là, capable de faire des gros arrêts, il sera peut-être pas le trois périodes parfaites, mais l'équipe va mal en début de match, en première période, en deuxième période, c'est lui qui tient dans le match, fait des gros arrêts, puis l'équipe est pas là en première, puis en deuxième, puis en troisième période, ben grâce à ça, tu s'en vas sur un avantage humain, puis Tarasenko, tu sais, il a juste besoin d'une chance dans un match, il la met dedans, puis les Blues gagnent. Fait que c'est vraiment ça, là, les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance, puis tu sais, ça part beaucoup avec le gardien de but qui joue très, très bien depuis plusieurs mois avec les Blues de Saint-Louis, là.
OK, Simon, quand on arrive, là, il reste encore une vingtaine de matchs à la plupart des équipes, mais quand on va arriver plus proche, là, est-ce qu'une équipe comme Saint-Louis qui va avoir gagné, mettons, je t'invente de quoi, 24 de ses 35 derniers matchs, elle arrive en série momentum, tu disais, ça n'a pas de bon sens, les autres, personne ne va vouloir les affronter. Est-ce que c'est un reset puis on recommence à zéro en série ou la dernière séquence, le dernier 10-12 matchs peut influencer qui va gagner une série?
Bon, c'est ça, ça va dépendre de quelle sorte d'équipe. C'est une équipe, on va dire, comme les Blues de Saint-Louis, que ça fait... on va dire avec le dernier mot qui reste, ça fait 2-3 mois quasiment qu'il joue du hockey de série, du hockey pour revenir dans la course des séries. Ça va être une équipe certainement qui va être dangereuse en première ronde parce qu'ils ont le momentum, ils jouent du hockey du hockey de série, si on peut dire, depuis plusieurs mois. Tandis qu'une équipe que oui, ça fait longtemps qu'on va dire qu'ils sont placés dans les séries, puis finis avec une saison difficile en queue de poisson, si on peut dire. Ben, eux autres vont vouloir dire, regarde, on recommence à zéro, on met les pendules à zéro, puis on regarde vers l'avant. Fait que, ça dépend comment tu rentres en série, mais pour moi, j'aime beaucoup mieux une équipe, là, qui rentre avec un momentum. Ça fait un mois qu'ils sont hot. Ça, c'est une équipe, là, puis on en parle souvent, Dan. Il y a tout le temps des surprises en première ronde. Puis en première ronde, tu penses que ça va tout le temps. Le monde, ils font leur braquette de série. Ils pensent tout le temps que ça va être les premières, la deuxième, la troisième, la quatrième qui vont passer encore de finale, mais c'est jamais ça. Il y a tout le temps de surprises. C'est souvent une équipe qui rentre comme ça, hot, dans les séries, qui a le momentum. Puis je l'ai vécu en 2010 avec les Flyers. Malheureusement, on avait perdu en finale la Coupe Stanley, mais on avait rentré en série en gagnant notre dernier match contre les Rangers de New York. On rentre par la porte d'en arrière, puis on a causé des surprises tout le long des séries. On s'est rendu en finale. On a perdu. Puis en 2012, lorsque on a gagné avec les Kings, même chose, on est rentré par la porte d'en arrière. On a sorti la première tête qui était les Canucks de Vancouver qui étaient supposés de gagner la Coupe Stanley cette année-là. On les a battus en 4 en première ronde. Fait que moi, je trouve que c'est un avantage pour une équipe de rentrer comme ça en série.
OK, parfait. Parlons du Canadien un peu. Le Canadien avait une très bonne séquence. Là, 4 défaites de suite. Finalement, hier, ils ont battu Columbus. Ils jouent les Flyers demain. Ils affrontent Toronto samedi. Le Canadien, c'est quoi le besoin du Canadien d'ici lundi pour Marc Bergevin, Simon?
Le besoin, tu sais, on a, je pense que là, on regarde trop en avant de nous. Tu sais, oui, on, tu sais, si on revient plusieurs mois en arrière, on disait que les Canadiens feraient même pas les séries. Fait que, tu sais, juste le fait que les Canadiens sont là aujourd'hui, ils ont une place ils ont une chance de faire les séries. Moi, je pense que, tu sais, je pense qu'en tant que GM, faut que t'écoutes. S'il y a un deal à faire puis qui te coûte pas cher, peut-être le faire, aider ton équipe, mais là, à échanger un choix de deuxième, troisième ronde, même quatrième ronde, tu sais, moi, à moins d'être que ça soit un joueur là, qui va faire partie des plans de l'équipe pour plusieurs années, tu sais, j'ai regardé la liste des joueurs. Moi, à part Panarin puis Mark Stone d'Ottawa, tu sais, il y a du monde qui dit Duchesne. Duchesne est rendu à 28 ans. J'irai pas hypothéquer ma jeunesse pour aller chercher un joueur comme ça. Mais un gars comme Panarin, ben peut-être je serais peut-être à portée à le faire, mais le reste des joueurs de location qui peuvent te coûter un jeune joueur ou des choix de repêchage, je reviendrai vraiment au plan de match qu'on parle de début de saison du Canadien, qui était d'essayer de faire les séries, puis si on fait les séries, tant mieux. Tu sais, faut pas partir en peur. Je sais que le monde à Montréal aimerait ça que le Canadien bouge peut-être pour aller loin en série, mais je pense que le fait que le Canadien soit déjà peut-être une équipe qui va faire partie des 8 meilleures équipes dans l'Est, c'est déjà beau. Fait que je m'en garderai une petite gêne. Je ferai vraiment attention du côté du GM du Canadien là, à faire des échanges à la date limite.
OK. Je comprends ce que tu viens de m'expliquer, mais je pars de là, puis je reviens à ton autre exemple juste avant. Dans la même discussion, pas il y a 3 semaines, il y a 3 ans, il y a 12 ans. Dans le même 10 minutes où on jase ensemble. Là, tu viens de me dire qu'il faut que Bergevin soit prudent. Puis déjà qu'il se classe en série, c'est déjà impressionnant pour eux autres. Ils n'étaient pas supposés être là. Parfait. Là, je recule le tape. Puis je me rends compte que tu viens de m'expliquer qu'avec les Flyers, vous êtes rentrés avec un match en tir de barrage. Vous êtes rendus en finale de la Coupe. Puis en 2012, vous êtes rentrés comme 8e équipe dans l'Ouest. Puis vous avez gagné la Coupe Stanley. Pourquoi pas essayer de rentrer puis de causer la surprise? T'as pas des chances tant que ça de jouer en série puis de penser aller loin. Je sais que le Canadien, c'est pas la même équipe que vous aviez à Philadelphie ou à Los Angeles, mais une fois que t'es rentré en série puis ton gardien, c'est Price, il peut arriver n'importe quoi, Simon?
Ah, c'est sûr. C'est jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais moi je regarde les tu viens de le dire, les deux équipes se comparent pas. Tu sais, l'équipe qu'on avait à Philadelphie puis l'équipe qu'on avait à Los Angeles, le plan de match, puis tu sais, c'était clair et net que les Flyers, l'équipe était bâtie pour y aller là. Même affaire avec Los Angeles. On avait fait des échanges durant l'année, durant l'été, des agents libres, même chose à Philadelphie, pour y aller. Puis nous autres, d'être placés dans une situation comme ça en fin de saison, c'était pas la situation qu'on voulait. On voulait déjà être dans les séries. On voulait déjà pas avoir affaire à ça. Mais du côté du Canadien, est-ce que l'équipe est déjà prête à devenir une équipe à
maturité,
peut-être gagner
non.
le trophée
non.
à maturité? Je pense pas. Fait que
je comprends.
C'est pour ça que je me garde une petite gêne. Mais comme je te dis, un bon GM va tout le temps garder la porte ouverte puis il va écouter. Je te dis, si à la fin, il n'y a pas de preneur, comme tu dis, je sais pas quel joueur qui pourrait arriver... Je veux pas dire, c'est ça, je sais pas pourquoi je vais dire ça, le Thomas Vanek. Je pense pas que le Canadien va aller chercher Thomas Vanek.
Non, un exemple. Mais okay, je comprends.
Mettons, dit, regardez ta Vanek, puis ça va juste te coûter un choix de 7e ronde. Mais prends-le.
Essaye-le.
Comme tu viens de dire, tu rentres en série, puis t'as Carey Price. Carey Price, goal au-dessus de sa tête, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais de là à hypothéquer ton futur.
Tu veux pas faire ça.
Je suis pas prêt à le faire tout de suite.
Ouais. OK. Simon, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans les vestiaires d'équipe de la Ligue nationale, dans les années où toi t'as joué pendant près de 15 ans, est-ce qu'on est rendu avec trop d'argent d'investi dans les salaires, puis il n'y a pas de vrais leaders qui peuvent arriver devant un gars et dire « Hey là, toi ça fait 3-4 games là, que tu penses rien qu'à toi, tu prends des mauvaises punitions, t'as pas une bonne attitude, tu peux-tu te calmer 2 minutes, là il y a des gars dans le vestiaire qui sont tannés de toi. » Ça se dit-tu encore ce genre de message-là ou c'était juste dans les années 70 puis 80?
Ben regarde, c'est, moi, ça va déjà faire 3 ans et demi, 4 ans, là, j'ai arrêté de jouer. Peut-être ça a changé un peu, mais j'ai vu vraiment le changement vers la fin. Moi, là, je pense mon gros trouble là-dedans, puis tu sais, je suis pas jaloux de ça, là, tu sais, il y a plus de les jeunes arrivent dans la ligue, ils ont 3 ans, puis par la suite, après, ils signent un gros contrat tout de suite. Tandis que dans notre temps, ben, t'avais un tremplin avant de signer ton gros contrat. Fait que t'as signé 2-3 ans. Puis après ça, là, t'avais ton gros contrat, mais t'étais rendu à 27, 28, 29 ans, tu sais. Mais là, les jeunes, ça fait 3 ans qu'ils sont dans la ligue. Ils ont rien prouvé, ils ont rien cassé, c'est ça, à part les exceptions, là, les McDavid et Matthews, là. Mais des jeunes que ça a même pas fait 20 buts, mais le GM projette qu'il va en faire 30, 40 dans 4, 5 ans. Boum, ouais. Il donne le gros contrat. Il a rien prouvé, puis le jeune gagne 8 millions par année. Puis là, t'es un vétéran, on va dire, en fin de carrière, qui gagne moins que le jeune, mais qui a une plus belle carrière que lui. Fait que je te dis pas tous les jeunes, mais il y en a plusieurs qui sont un petit peu coqués. Il y en a qui te respectent au bout, que tu sais, ils vont dire, hey, je t'admire, tu sais, avec qu'est-ce que t'as fait toute ta carrière puis tes affaires là, je vais t'écouter. Mais il y en a des jeunes que c'est un petit peu plus dur. Le respect là est moins là que je te dirais t'as là de 10-15 ans. Mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est faut vivre avec. Puis mais tu sais, comme je te dis, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de jouer. Est-ce que c'est s'est amélioré? Est-ce que c'est pire? Okay. Je sais pas. Fait que, mais en même temps, c'est aussi dur pour les vétérans, mais c'est aussi dur pour les coachs aussi, là. Les coachs, là, quand t'as un jeune de 23 ans qui gagne 8 millions puis il est signé pour les 8 prochaines années, c'est difficile aussi à gérer comme pour un entraîneur aussi. Fait que ça, c'est moi je trouve que c'est de la faute des GM, puis ils sont pognés avec ça. Ils vont être pognés avec ça pour longtemps, jusqu'à un prochain lock-out, jusqu'à temps que on dit, hey, ça n'a plus de bon sens, faut faire de quoi, faut briser ça. Mais pour l'instant, ben c'est les GM doivent vivre avec.
Parfait. Un gros merci, Simon. Bonne soirée à toi.
Un plaisir, Dan. Merci à toi aussi.
Bye. Simon Gagné, notre chroniqueur dans l'avant-match, chaque mercredi.
Au FM 93. Ready? L'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Avec un trio Ford aussi brillant, on fait de tout client tout un gagnant.
Petit format, compétence énorme, le VUS EcoSport SE 2018. 4 roues motrices se louent 7 semaines à seulement $155 aux 2 semaines en location de 48 mois. $155 aux 2 semaines. Zéro comptant requis. Détail de cette offre sur place. Desjardins Auto Collection, Sainte-Foy Ford ou l'Ange Gardien Ford.
C'est facile d'embarquer avec Ford.
Les commotions cérébrales font des ravages. Une activité sportive avec ou sans contact, une mauvaise chute ou encore un accident de la route, une chute de vélo peuvent occasionner un choc à la tête. La Fondation du CHU de Québec lance un projet rassembleur qui supporte une recherche innovante sur les commotions cérébrales. Simon Gagné, Guillaume Rioux, François Drolette, Charles Fortier, Michel Laplante et Louis Garneau deviennent les têtes d'affiche de ce projet. Appuyez votre sportif préféré en donnant à projetsportif.org. En plus de soutenir la Fondation du CHU de Québec, vous pourriez gagner un moment privilégié en sa compagnie et 5 000 $ offerts par Voyage à Rabais. Toute l'info est sur projetsportif.org.
Vous en avez marre de l'hiver et avez besoin de vous évader? Profitez de notre solde Savourez le soleil, offrant jusqu'à 40% d'économie sur des forfaits vacances dans les hôtels les mieux cotés. Choisissez de mieux voyager avec notre garantie du meilleur prix et service primé. Ces forfaits vacances exceptionnels s'envolent. Alors réservez d'ici le 22 février auprès de votre agent de voyage ou sur
sunwing.ca. Un arrêt convaincant à Expo Habitat Québec. Portes et fenêtres élites et installations Giguère. Le savoir-faire que vous recherchez. Une rencontre sur place et vous serez convaincu. Fenêtreélite.com.
La 54e finale des Jeux du Québec, c'est ici à Québec. Ce sont plus de 3300 athlètes qui vous inspireront par leur détermination. Du 1er au 9 mars, suivez leur performance web diffusée de Québec 2019 au jeuxduquebec.com. Une collaboration du FM 93.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez la Forte 2019, meilleure voiture compacte de l'année selon l'AJAC.
Bien équipé, incluant climatiseur, pour $18,295 durant l'événement Dont est l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
Rob Zombie, Marilyn Manson, les jumeaux diaboliques, ensemble, dans la tournée Hell Never Dies. Samedi 17 août, au Centre Vidéotron. Rob Zombie, Marilyn Manson, l'enfer est à nos portes. Billets en vente ce vendredi 10h sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev.
Dave! Dave!
Quoi?
J'ai entendu quelque chose dans la maison.
Comme un frottement sur le mur?
Oui.
Oh, excuse-moi, je dormais pas, fait que je peinture dans le salon.
Hein?
Pis tant qu'à faire, je vais nous mettre des belles moulures. Rendors-toi, là. Je t'aime.
Ce week-end, chez Renault Dépôt, on vous offre 20 % de rabais sur le produit de votre choix d'une valeur de 50 $ et plus. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent.
Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans.
Chez Honda de Giro, la Civic, la plus vendue au pays depuis 21 ans, est en location à partir de seulement 0,99 % jusqu'à 36 mois. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
FM 93, promo. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Dans le cadre du Salon international de l'Auto de Québec, vous pourriez gagner votre essai routier CAA Québec d'un véhicule électrique en formule VIP, incluant vos billets pour le salon. Ce sera la meilleure occasion d'essayer un véhicule électrique. Inscrivez-vous sur fm93.com.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Au FM 93, voici Dan Kou.
OK, on est de retour dans l'avant-match. On va parler avec Will dans quelques instants. Il a rencontré Jarome Iginla ce matin au Centre Vidéotron. Le temps de vous dire que Charlie Coyle a été changé aux Bruins. On a ça tout juste avant d'entrer en onde. Et tantôt, dans mon intro d'émission, je disais que Charlie Coyle, après un séjour dans les universités américaines dans la région de Boston, s'était amené avec les Wildcats de Moncton. Je me suis trompé, je suis désolé. C'était avec les Sea Dogs de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Et avec Jonathan Huberdeau, Nathan Beaulieu et l'équipe de Rive, c'est... dans cette équipe que Coyle avait joué dans la LHJMQ. Donc, il est échangé aujourd'hui du Wild aux Bruins de Boston. On dit que c'est Ryan Donato. Il y a un choix de cinquième ronde qui serait envoyé au Wild en retour. Le format des séries, on va répondre en temps réel. Service à la clientèle impeccable. Il y a un auditeur qui a appelé Will pendant la pause qui dit « Là, je m'obstine avec mes chums. Ça vient mêlant, le format des séries. Si les séries débutaient ce soir, le Canadien affronterait qui exactement? Le Canadien comme première équipe repêchée? Affronterait le moins bon des deux champions de division, c'est-à-dire les Islanders de New York en date d'aujourd'hui. Et en deuxième ronde, si jamais le Canadien sort les Islanders, le Canadien affronterait le gagnant de la série Washington-Pittsburgh. Le Canadien ne revient pas dans sa division. Même chose pour Columbus. Columbus en date d'aujourd'hui, c'est la dernière équipe repêchée, 69 points. Ils amorceraient les séries contre le Lightning. S'ils battent le Lightning, en deuxième ronde, ils affrontent le gagnant de la série Boston-Toronto. Une dernière petite chose également, je veux vous dire que la promotion des jeunes du secondaire pour venir co-animer avec moi à la semaine de relâche, ça va très bien. On a plusieurs demandes, mais continuez de vous inscrire en grand nombre sur fm93.com dans l'onglet concours. Vous me dites pourquoi on devrait vous choisir. Je cherche un garçon ou une jeune fille qui étudie au secondaire. Donc, entre secondaire 1 et secondaire 5, vous nommez, vous remplissez aux questions du JAJ sur le site internet fm93.com et vous pourriez venir co-animer avec moi dans la semaine de relâche c'est la semaine du lundi 4 mars.
To the captain, Jarome Iginla, with Bouwmeester on the rush. Iginla in front, they score! It went off a skate! Jarome Iginla's mob! The milestone moment!
500 buts qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Et le collègue Will a rencontré Jarome Iginla ce matin. Il dirige son fils et les amis de son fils dans l'équipe des Boston Junior Eagles. Ils ont gagné d'ailleurs ce matin contre les Mini Ducks d'Anaheim. Ils vont jouer leur prochain match contre l'équipe de la République tchèque vendredi matin, 9h15 au Centre Vidéotron. Will, as-tu l'impression que tu as rencontré, tantôt je disais, peut-être je suis allé fort, là, une de tes idoles de jeunesse?
Oui, quand même. Je te dirais joueur préféré. Je me rappelle d'un tournoi, probablement à Tom ou Pee-Wee, où on nous demandait notre joueur préféré. Puis derrière la carte, c'est mentionné mon joueur préféré dans la LNH, Jerome McGinley.
OK.
Ouais. Donc, j'ai toujours aimé ce joueur. Toujours aimé ça, moi, les gars complets, les gars robustes qui sont capables d'à la fois peut-être de jeter les gants, être capable de se débrouiller seul quand ça chauffe dans la cuisine, mettons, mais aussi être des bons joueurs et être capable de scorer. Je pense que Jerome McGinley faisait tout ça sur une patinoire dans ses bonnes années. Puis oui, il faisait partie de mes joueurs préférés.
Un ailier combatif, talentueux, il n'y en a pas beaucoup.
Ben, t'sais,
lui en était un.
Définition de power forward,
exact.
C'est carrément Jerome McGinley.
Oui. Puis, sincèrement, c'est un gars qui aurait été l'image de la franchise des Flames pendant une quinzaine d'années. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'au départ, on le repêche avec les North Stars du Minnesota et on l'échange un pour un contre Joe Nieuwendyk.
Oui, exact.
Ça procure une coupe à Dallas en
99.
Mais ça donne un joueur concession aux Flames. C'est une transaction, je dirais, audacieuse, mais qui a été bonne au final pour les deux équipes.
Absolument. Puis on pense que Ginla a été repêché au premier rang ou un choix de première ronde des Flames. Ben non, à l'origine, il a été un choix des Stars de Dallas. Tu sais, quand on parle justement, c'est la période des transactions bientôt, là. Il y a des équipes, bon, est-ce qu'on devrait payer le tout pour le tout, sacrifier un jeune pour aller chercher un vétéran établi, mais gagner une Coupe Stanley? Ben, je pense que l'exemple des Stars avec Ginla, Nieuwendyk, c'est le parfait exemple.
Exact. Quand tu jases avec un gars comme ça, tu jases de son équipe Pee-Wee, de sa carrière dans la Ligue nationale. Comment t'as lancé l'entretien?
Un peu de tout. Un peu de tout. À la base, là, quel sympathique bonhomme, Jerome McGinley. Sérieusement, Dan. Puis l'année dernière, on en avait rencontré un ancien joueur étoile de la Ligue nationale de hockey. Puis tu m'avais, je te dirais, préparé à rencontrer ce gars-là. On va le nommer Martin Saint-Louis, qui est une légende du hockey. Oui. Malheureusement, il n'est pas le gars le plus sympathique en personne.
Exact.
Puis je pense que ça fait simplement partie de sa personnalité. Il est un peu plus. Plus discret. C'est bien correct comme ça. Jerome McGinley, quel sympathique bonhomme. Puis quand j'ai demandé à M. Ménard, le responsable des médias du tournoi Pee-Wee, est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être de discuter avec lui avant son match de ce matin? Ben oui, pas de problème. Il l'a fait à son premier match avec d'autres médias. Il l'a fait encore ce matin. Non, vraiment, Jerome McGinley est un sympathique bonhomme. Un bon Jack, là, comme on dit en bon français. Puis, bon, depuis qu'il a joué ses derniers matchs dans la NHL avec les Kings en 2017, McGinley, il n'a pas vraiment arrêté d'être impliqué dans le monde du hockey. Même m'a dit qu'il est encore plus impliqué qu'il l'était dans la Ligue nationale. Donc, il est dans le hockey à temps plein avec ses trois enfants. Il est coach. Alors, je lui ai demandé s'il aimait sa nouvelle carrière d'entraîneur de jeune joueur Pee-Wee.
Yeah, I've really enjoyed it. I'm definitely very blessed to be able to, first of all, have, you know, we have a daughter who's 14 and two boys that are 12 and 10, and they're all really into hockey. So, I coach the two boys that are 12 and 10, and keeps me busy and 6 days a week, but it's nice to get a chance to be around them, try to you know, pass on some stuff that I learned over the years and kids that are into it and want to keep getting better and love the game. And also it's competitive. It's fun. These tournaments still gets, you know, as a coach, I'm probably a little bit, you know, more excited and nervous before a game than, you know, on these big ones, because you want the kids to do well, you want the team to do well, you wonder if you how the preparation, and a lot of it after that is kind of out of our control. So, but it's neat. It's a lot of fun and really enjoyed it.
Un gars qui a fait carrière dans la Ligue nationale qui dit qu'avant les matchs au tournoi Pee-Wee, il est probablement plus nerveux comme entraîneur que ses propres joueurs.
Exact.
On entend dans l'entretien où il dit il y a trois enfants, une fille de 14, un gars de 12, un gars de 10. C'est donc dire que Jerome McGinley, qui dirige son fils de 12 ans cette année, pourrait revenir dans un an ou deux, diriger son autre fils qui a 10 ans actuellement.
Tout à fait, qui joue au hockey dans la région de Boston où la famille est établie présentement. Donc, les trois enfants jouent au hockey. La fille qui est la plus grande, par la suite, ses deux enfants, sont impliqués dans le hockey. Puis, tu sais, ils aiment ça. Puis, autant quand ta carrière de la Ligue nationale, ça t'amène souvent à être à l'extérieur, ben là, en ce moment, ben il peut côtoyer ses enfants. Il est dans les arénas 6 jours sur 7, là. Fait que, comme je te dis, il est autant occupé comme il
l'était. Il a pas arrêté, comme tu dis.
Il a pas arrêté, il a pas arrêté. Justement, là, en participant au tournoi Pee-Wee, oui, je lui ai demandé de voir 10 000 personnes dans les estrades pour un tournoi Pee-Wee. À quel point, puis ce qu'il pense de la passion du hockey des gens de Québec, on l'écoute.
Yeah, that is really cool. I heard about it from the Eagles last year who were in there. They said, yeah, like 9,000-10,000 people are at the final. That's pretty amazing. And what a great, however far the kids go on to play, that's an unbelievable memory. And this is as nice a building as any, you know, in the NHL. Yeah, yeah, yeah. So they're getting a real experience, and it helps them in a lot of ways, I think, for whatever they do, learning how to deal with those nerves and the excitement and to appreciate it. And that's something they'll never forget.
Il dit qu'il n'y a pas grand-chose de plus cool pour un jeune joueur de hockey d'âge Pee-wee. Puis il avait entendu parler l'année dernière avec le programme des Eagles où son équipe joue présentement. Il avait participé à la finale, je pense, dans une autre catégorie que le 3A où il joue présentement. Okay. Il y avait 9, 10 000, 11 000 personnes à la finale. Donc, il en avait entendu parler déjà de la passion des gens de Québec pour le tournoi Pee-wee. Puis il dit c'est surprenant, mais vraiment, c'est une belle expérience. Puis surtout, de jouer dans un amphithéâtre de calibre NHL, ben je pense que c'est les kids qui en sortent gagnants. Puis il aurait aimé ça à l'époque, pouvoir jouer justement au tournoi. Puis oui, il n'avait pas eu la chance lors de ses années Pee-wee, lorsqu'il joue en Alberta. Également, Dan, Higgin, là, il est fraîchement retraité. Il entraîne ses enfants pour une première fois. C'est ses premières armes dans le coaching. Je lui ai demandé si coacher, être un recruteur ou un quelconque poste dans une organisation de la Ligue nationale de hockey pourrait l'intéresser dans les prochaines années. On écoute Jerome Higgin là.
I'm not sure. I really enjoy the game. I love the game of hockey, and I'm really, like I say, I've really enjoyed this part, coaching with the kids, but everything goes by fast, and 12 and 10, you know, there's only a few more, 3 or 4 more years to coach, you know, for the kids, and then we'll see, and things change. But right now, really just enjoying trying to be at all their tournaments that I can and all their games that I can and practices and be around the house, and I haven't gotten bored yet, but I understand that things change, and once the kids are out of the house and they don't need me around anymore, I'll be looking for some things to do for sure.
Bon, il ne peut pas trop me donner une réponse concrète parce qu'en ce moment, il ne sait pas. Il fait juste profiter justement de sa retraite puis de coacher ses enfants. Peut-être qu'il va changer d'idée dans quelques années justement. Puis il dit, écoute, dans 3-4 ans seulement, mes enfants vont sûrement jouer junior dans un college. Je ne pourrai plus les coacher, je ne pourrai plus les entraîner. Donc on verra rendu à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'en profite de coacher mes enfants au niveau Pee-wee. Après 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey, 1300 points en 1554 matchs, il a gagné un trophée Art Ross, 2 trophées Rocket Richard, 2 médailles d'or olympiques. J'ai demandé vraiment quels sont ses plus beaux souvenirs. Et quand il regarde sa carrière, là, bêtement et fraîchement comme ça, à quoi il pense? Puis quels sont ses plus beaux souvenirs?
Well, I have lots of them. Probably one of them is just playing my first NHL game. You know, you, as a kid, you work towards it, you dream about it, and to actually make it, you know, and then you get drafted, and then you still haven't made it. You still have to work to get into the league, and to actually play my first NHL game was pretty awesome. And then I would say the Olympics, you know, getting a chance to play at the Olympics for Team Canada. A lot of different ones. Playing on a line with Joe Sakic and Marilyn Lemieux at the World Cup was pretty cool, pretty awesome. You know, the Stanley Cup run in Calgary. Play into the finals and stuff. That was amazing. Each series you win is so much fun. Lots of different ones, but, you know, all the way to when I was younger. World Juniors were great. Playing in Kamloops and winning Memorial, you know, those are all those neat things were like, they all go together and they're very special in their own way, and feel fortunate to have gotten to do them and play as long as I did. It's then there's a lot of fun that goes on, you know, not just in each game. You know, you're traveling and the first time you see New York City and those type of things. So it was truly a great thrill and was very blessed to get to do it. And
Will, quand tu nous as présenté au début, tu nous as fait une petite intro, tu nous as dit, j'ai rencontré Jerome Higgin là ce matin, juste avant le match de son équipe, puis c'est un maudit bon gars, c'est un monsieur sympathique qui m'a mis à l'aise dès le départ. Ça fait 4 extraits qu'on entend de lui.
Ça paraît, hein?
Puis c'est évident que c'est un bon gars.
Clairement.
Parce que quand il répond à tes questions, il fait, on voit pas à la radio, là, on fait juste entendre, mais on sent le sourire dans sa voix.
Oui.
On sent le bon Jack, si tu me prêtes l'expression, le gars avec qui on voudrait aller prendre 3-4 grosses bières ou 16 diètes Pepsi, puis jaser avec lui jusqu'à 2 heures du matin.
Exact.
Ça paraît même dans les extraits.
Puis il te regarde dans les yeux quand il te répond, il regarde pas au plafond, puis ça veut dire quelque chose quand même, ça.
Ça
paraît qu'il veut te répondre, puis il prend le temps de te répondre. Oui, tout à fait, la grande classe.
Ouais.
Puis ça apparaît encore une fois que c'est un bon Jack, Jerome Higgin là.
Des Olympiques puis des Coupes du monde, puis sur le même trio que Sakic puis Lemieux, puis tu sais.
C'est pas pire, hein?
C'est le fun de l'entendre dire, tu sais, moi, je suis un petit cul de l'Alberta, puis dans la Ligue nationale, à un moment donné, la première fois que je suis arrivé à New York, je m'en souviens. Quand est-ce qu'on entend ça d'un joueur de la Ligue nationale? La première fois que je suis arrivé à New York, c'était impressionnant. Ouais. Nous, on n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Non. Mais toi, Will, la première fois que tu es arrivé à New York, tu étais impressionné.
Bien, clairement.
Puis quand moi, la première fois que je suis arrivé à New York, j'étais impressionné.
Aussi.
Mais lui aussi, même s'il a gagné des millions puis il a joué dans la meilleure ligue d'hockey au monde, c'est un humain. Fait que la première fois qu'il est arrivé à New York, il a été impressionné, puis il nous le dit dans l'entrevue.
Puis ce qui m'a surpris également, il me mentionne, la première chose qu'il me mentionne dans ses plus beaux souvenirs, mon premier match dans la Ligue nationale de hockey. Pas la médaille d'or olympique, non. Pas la finale de la Coupe Stanley en 2004.
Premier match.
C'est parce que ça prouve que j'étais rendu. Quand t'es repêché, oui, tu fais partie d'une équipe de la Ligue nationale, mais t'es pas encore rendu.
Okay.
Lorsque tu joues ton premier match, t'as l'impression vraiment d'être arrivé où ce que tu voulais être, à ton rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Dan, t'étais là dans l'aréna, t'as eu la chance d'être là en 2010, hein, au Rogers Arena, alors que c'était les Jeux olympiques, bien sûr, finale masculine entre le Canada et les Américains. C'est 2-2, on s'en va en prolongation et on connaît la suite. Qui effectue justement la brillante passe à Sidney Crosby pour le Golden Goal? Bien, c'est Jerome McGinley qui nous parle de la conquête de la médaille.
That's one of the best moments for sure, because that was like being literally at the Pee Wee tournament, you know, at a fake tournament where, I mean, we win and kids are throwing off their, we're adults, but we're acting like kids, throwing our helmets and our gloves around, and when you're in that do or die moment, it could, you know, if you don't win, you remember it forever, and you do win, you remember forever in a different way, right? So fortunately that one went the right way, and being in Canada and that whole Olympics was, to be a part of that was, that was the crowds and the way, you know, in Vancouver, very proud to be Canadian. And it was neat to see all the fans embrace it and how much fun they had with it and all the sports and supported it. And that was some amazing atmospheres for sure.
Ben, il dit que c'est comme remporter le tournoi Pee Wee pour les adultes, hein.
OK.
Lorsqu'ils ont gagné la médaille d'or, hein. En 2010, c'était un moment inoubliable de faire ça en plus à Vancouver. Il était fier d'être Canadien. Puis l'ambiance, la foule. Tu y étais, Dan, là. Puis ça devait être incroyable.
Des frissons.
Quelque chose.
C'est pas moi qui ai fait la passe à Crosby, là. Mais des estrades, j'avais des frissons. Ouais.
Hey, les Flames de Calgary, qui est son équipe de prédilection, vont retirer son chandail numéro 12 qu'il a porté pendant 16 saisons le 2 mars prochain. Il a été capitaine des Flames pendant 10 ans à Calgary. Même s'il a joué pour 4 autres équipes après son passage avec les Flames, vous comprenez que l'équipe de son cœur, bien, c'est les Flames de Calgary. C'est spécial pour lui de se rendre là le 2 mars prochain, de voir son numéro 12 être retiré.
I played 16 years there, and that's where I broke in. So, all the teams that I got to play for, it was a cool experience and neat in different ways, and I enjoyed all of it. But yeah, playing with the Flames and, you know, over most of my career and growing up there and like, you know, in Alberta and starting as a, you know, my first game, I hadn't quite turned 19 yet in the playoffs and through that. So yeah, it's a huge honor that they're doing that, and a thrill. And when I grew up, I remember, you know, I'd go see that we were from, you know, St. Albert, just outside Edmonton, and we'd go down to Calgary a lot, and you'd see the Saddle Dome, and you dream about playing there. But I never dreamt my jersey would ever get retired, you know, there. So it's pretty surreal, and that'd be pretty neat. I'm not, it'd probably be a little bit overwhelming, and but it's neat to be able to share with my family too, and some friends and stuff who will be coming down.
Ah, c'est là que tout a commencé, hein, pour Jerome McGinley. Donc, le 2 mars prochain, les Flames vont retirer son chandail. Puis, pour un petit gars qui vient de la région pas loin d'Edmonton, de jouer pour les Flames à Calgary, au Saddle Dome, c'était pas évident au début, finalement. Il dit, je pense que je suis rendu un gars du coin. Je me suis acclimaté avec les gens de Calgary. Puis, je suis bien fier d'avoir représenté les Flames pendant plusieurs années.
Très bon reportage. Merci, Will, de nous avoir fait découvrir un homme qu'on a connu comme joueur de hockey, mais qu'on connaît maintenant comme individu. Puis, t'as raison. C'est un monsieur qui a l'air très, très, très sympathique.
Un vrai bon Jack.
Super. Vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui au tournoi Pee Wee. Sachez que ce matin, l'équipe de Fernando Pisani, vous vous souvenez, c'est cette vedette des Oilers d'Edmonton qui avait perdu en grande finale contre les Hurricanes en 2006. Pisani avait été très bon en séries éliminatoires. Son équipe de Saint-Albert a vaincu le mini-avalanche du Colorado 3-2 en tir de barrage ce matin. Les mini-Islanders ont gagné, vont donc affronter demain soir les mini-remparts. Et victoire de l'équipe de Jerome McGinley, on vient d'en parler, 5-4 sur les mini-Ducks d'Anaheim. En classe scolaire en fin d'après-midi aujourd'hui. Une victoire du Collège de Lévis contre l'Académie Saint-Louis, 3-1. Et il n'y a pas de surprise là. Le Collège de Lévis a battu à peu près tout l'hiver l'Académie Saint-Louis. C'est un peu plus normal comme résultat. Et actuellement, les mini-nordiques sont en action sur la patinoire. Demain matin, 8h, les mini-Rangers contre les Rockets de Kelowna. Et demain matin, 11h45, les mini-Canadiens contre les mini-Blues de Saint-Louis.
Vive les piouis du carnaval! Vive les piouis du carnaval!
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
C'est Joanne l'expression « les astres sont alignés ».
Oui.
Ben là, les astres sont alignés pour changer les portes et fenêtres. Joanne, c'est l'Expo Solaris.
Ah, je comprends. Pendant l'Expo Solaris, pour tout achat de 2 500 $ avec installation, ils payent les taxes.
Oui, ou encore on paye dans un an sans frais ni intérêt avec Accordé Desjardins.
Puis on profite encore du crédit Rénovaire allant jusqu'à 10 000 $.
Mais les astres restent alignés jusqu'à dimanche seulement.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
J'ai reçu un texto ce matin de Fred, qui est en charge chez Honda de Giro des voitures d'occasion. Fred me dit, nouvel arrivage, Audi A4 Technique Quattro 2017, berline, argent, intérieur cuir, toit ouvrant, jamais sorti l'hiver, condition showroom. Sachez que cette voiture a seulement 14 750 et on la vend 38 988 plus taxes. C'est moins cher que tous les comparables. Honda de Giro, évidemment, c'est des voitures neuves. C'est des voitures d'occasion comme celle que je viens de vous décrire. Mais Honda de Giro, c'est un concessionnaire Honda situé à Montmagny, en affaires depuis 30 ans, évidemment. Et j'ai parlé également avec au téléphone ce matin avec Gilles Thibault, le propriétaire, et tout se passe très bien. Sachez qu'au niveau des produits Honda, la Civic 2019 renouvelée est en location à partir de 0,99% sur 36 mois. Et le polyvalent CR-V 2019, le VUS de l'année selon MotorTrend, à 1,49%, c'est réglé. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de Matelas Dauphin jusqu'à dimanche. Obtenez 50% de rabais taxes payées sur tous les formats de matelas Soprano. Un ressort en sachet ultra confortable, dont le format Grand 2 Place Queen en super spécial à $769. Taxes payées. PDSF $1,538. La grande vente annuelle se termine dimanche dans tous les Matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant.
Ça y est, chez Kia Lévis, votre nouvelle Forte est arrivée. Tentez l'hiver avec de nombreux équipements de série, comme les très appréciés sièges chauffants et le volant chauffant. Et surtout, profitez d'un boni de $500 offert par Kia Lévis. La Forte, meilleure voiture compacte en 2019 au Canada selon l'AJAC, offerte ce mois-ci chez Kia Lévis à seulement $18,245.
Le nouveau Kia Lévis.
Chaque mercredi, dans vos deux brasseries italiennes, Portofino, c'est la soirée tartare à 50%. Dès 17h, obtenez un tartare sélectionné à moitié prix, comme le tartare de thon miel et mangue, saumon classique ou encore le bœuf italien. Spécial chaque mercredi au Portofino Vieux-Québec et Sainte-Foy.
Combinez le plaisir avec le plaisir grâce aux agences de voyage La Forfaiterie. Fuyez l'hiver qui s'étire. Réservez un voyage avec La Forfaiterie avant le 28 février et recevez un chèque cadeau de 50 ou 100 $ à La Forfaiterie. Donc, un voyage pour vous et un forfait resto, hôtel, spa ou activité de votre choix aussi pour vous. C'est ça, combinez le plaisir avec le plaisir. Rencontrez nos conseillers au Club Voyage La Forfaiterie à Laurier-Québec et à La Forfaiterie Café et Voyage des Galeries de la Capitale.
Je souffre d'ostéoporose.
Avec mes douleurs à l'épaule, j'avais besoin d'une infiltration.
Je suis enceinte et il fallait que je passe une échographie.
Mon médecin m'a prescrit une coloscopie.
Ils ont tous un point en commun. Ils sont allés chez Kleenex.
J'ai eu un rendez-vous rapidement.
Ils m'ont fourni la médication, même pas besoin d'aller à la pharmacie.
Oh, je me suis sentie écoutée.
Coloscopie virtuelle, c'est tellement simple.
Kleenex, parce que votre santé nous tient à cœur. Prenez rendez-vous.
KleenexImagerie.com.
Salut, c'est Jackie Pop. Ce week-end, l'enfer est à nos portes dans la grand-messe du rock. Je souligne le passage de la tournée Hell Never Dies avec Rob Zombie et Marilyn Manson le 17 août en vous faisant gagner vos billets. Vous aimeriez gagner vos billets pour Rob Zombie et Marilyn Manson le 17 août au Centre Vidéotron? Écoutez la grand-messe du rock ce vendredi au FM 93.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez le Sportage 2019, bien équipé à partir de $26,995 avec traction intégrale sans frais durant l'événement Dont est l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
L'unique, l'irremplaçable avant-match avec Dan Pou au FM 93.
C'est terminé!
Vous le savez, j'en ai parlé presque toute l'après-midi. Deux athlètes québécois qui aujourd'hui ont annoncé leur retraite. Alex Harvey, plus près de nous en ski de fond, va participer à la Coupe du monde sur les plaines du 22 au 24 mars. Et deux jours plus tard, va tenir le point de presse pour résumer sa carrière. Et Georges Saint-Pierre, 37 ans, combattant par excellence en UFC, qui annonce sa retraite. Ce sera un point de presse demain. On va jaser avec le gars par qui est arrivée cette nouvelle-là. C'est le journaliste sportif à RDS, Benoît Beaudoin, qu'on joue à l'instant au téléphone. Salut Benoît!
Salut Dan, ça va?
Ça va bien, toi?
Yes, yes.
Est-ce que c'est une surprise que Georges Saint-Pierre annonce sa retraite?
C'est pas une surprise. Juste à dire, en fait, il va l'annoncer demain. Donc, oui. Il l'a pas officiellement encore annoncé aujourd'hui. Oui. Donc, c'est des informations qu'on a eues à RDS. Je prendrai pas le crédit pour toute cette nouvelle-là. Je vais donner aussi le crédit à certains de mes collègues. Okay. C'est un beau travail d'équipe. On a été quelques-uns à travailler sur ce dossier-là. Mais effectivement, là, aussitôt que Georges Saint-Pierre a lancé sa... a invité les journalistes à sa conférence de presse, que le communiqué de presse est rentré, ben on savait que c'était ça qui s'en venait, donc on a sorti la nouvelle. Est-ce que c'est une surprise? Non. Non, parce que on le sait, Georges est très peu actif là, dans les dernières années. Oui. Il a pris une pause de 4 ans, il est revenu en novembre 2017, s'est pas battu dans les 2 dernières années. Ce qu'il cherchait, c'est un dernier gros combat. Est-ce qu'on a pu apprendre de nos sources, c'est que les négociations ont tout simplement achoppé, ça a avorté avec l'UFC qui n'a pas voulu s'embarquer dans l'aventure pour un combat entre Georges Saint-Pierre et le champion russe Habib Nurmagomedov. Donc,
oui.
Plutôt que d'avoir son gros combat, c'était pour Georges pas compliqué, là, il devrait nous le confirmer demain. C'était ce gros combat-là ou la retraite. Le combat n'est pas venu, donc c'était la deuxième avenue. Il n'y avait pas de plan C, là. C'était les deux plans envisagés.
Est-ce que pour toi, c'est le meilleur de sa génération?
Oui. Oui, j'ai pas peur de le dire. J'étais peut-être un peu, j'ai probablement un parti pris. C'est le combattant qui m'a fait aimer les arts martiaux mixtes. C'est lui que j'ai le plus suivi au cours de ma carrière. J'ai eu la chance de voir ses 5 derniers combats live. Je le suis depuis l'UFC 83 là, en 2008. Là. Je dirais que c'est la première fois là que j'ai vu Georges Saint-Pierre là. En action, là, que je me suis dit, OK, ce gars-là, c'est quelque chose. Puis je me demandais pourquoi il était si populaire que ça aux États-Unis, puis qu'on n'entendait presque pas parler là, ici au Québec. Ça m'a sonné une cloche, j'allais revoir tous ces combats. Bref, c'est assurément le meilleur mi-moyen de l'histoire.
OK.
Anderson Silva aurait pu avoir le titre de meilleur combattant de tous les temps. Je considère que ces 2 tests antidopage qu'il a raté, qu'il a échoué, en fait, viennent un peu teinter ça. Même chose pour John Jones, qui 2 fois a été pris pour dopage. George, blanc comme neige, si on prend ça en ligne de compte, George, selon moi, est le plus grand.
OK. Tu disais en début d'entrevue que c'est un travail d'équipe RDS. Tu disais les négos ont avorté. Est-ce que ça fait longtemps que ça jase que si les négos avortent, c'est la retraite ou c'est quand même assez récent comme information?
Ça fait un certain temps. Georges, dans une de ses dernières entrevues qu'il a données, il avait donné une entrevue à ESPN, un journaliste montréalais.
Est-ce que pour toi, c'est le meilleur de sa génération?
Ben, le meilleur, en fait, dans les arts martiaux mixtes, Ariel Helwani, qui travaille pour le réseau ESPN. Une des dernières entrevues de George, il avait vraiment commencé à dire, et ça date d'avant les fêtes, là. Il avait dit, je commence vraiment de plus en plus à y penser. Tu sais, le fameux feu sacré, là, il commençait à le perdre. George, je pense que c'est stressant pour George de pas savoir où il veut s'en aller. T'sais, lui, il savait qu'est-ce qu'il voulait. Là. Il savait qu'il voulait son combat contre Nurmagomedov ou la retraite. Ses plans étaient clairs dans sa tête, mais de voir que ça allait pas, les négociations n'allaient pas super bien, je pense qu'à un moment donné, il s'était dit, si ça fonctionne pas, il faut que je prenne la décision. Et j'ai déjà jonglé avec l'idée il y a 4 ans passés, après le combat contre Hendricks, il a pris de longues pauses, il y avait pensé, finalement, le feu sacré était revenu, il a atteint son objectif d'aller chercher une deuxième ceinture, il avait un troisième objectif de battre Nurmagomedov. Encore mieux si le combat avait été à 165 livres, on parlait beaucoup de créer une nouvelle division à l'UFC, et genre j'aurais pu aller chercher une troisième ceinture là, si on avait créé cette division-là. C'était le but ultime pour Georges. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à un moment donné, c'est le temps de couper le cordon et de dire OK, faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. On en est rendu dans le code de Georges St-Pierre, selon toute vraisemblance.
OK, après l'annonce d'aujourd'hui, le Russe en question a fait une publication sur les réseaux sociaux en disant que pour lui, ce sera un honneur de partager l'octagone avec Georges St-Pierre. Finalement, c'est peut-être la UFC qui ne veut pas de ce combat-là.
C'est ce qu'on comprend. Là. Évidemment, on n'est pas dans les négos. Ce que je comprends de la situation, c'est que l'UFC n'est pas chaud à l'idée là, de mettre Georges contre Khabib Nurmagomedov, parce que Nurmagomedov, présentement, il est invaincu. 27 victoires, aucune défaite. Et ça fait partie de son aura un peu de champion, d'être invaincu, d'être invincible. Georges, c'est ça qui l'attirait, d'aller battre un gars qui est invincible. Mais Georges, et l'UFC est bien averti, c'était son dernier combat, no matter what. Donc, imagine, pour l'UFC, Georges St-Pierre revient, gros combat, c'est parfait, on fait de l'argent, tout ça. Mais Georges s'empare d'une ceinture qu'il ne va jamais défendre. De deux, ben, il nous scrape un gars qui a encore de très belles années devant lui.
Ouais.
Et le gars, ben, il n'a plus son aura d'invincibilité et pas mal moins, au niveau marketing, c'est pas mal moins intéressant pour l'UFC. Fait que je pense qu'on a jugé, là, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de faire un gros combat, Georges St-Pierre contre Nurmagomedov, puis risquer de briser la fiche parfaite de Nurmagomedov, où on préfère faire encore 3, 4, 5, 6, 7 gros combats avec Nurmagomedov.
Je comprends.
Et essayer qu'il soit invaincu là, pour le restant de sa vie. Là.
Parfait. Un gros merci, Benoît, de nous avoir parlé. Très apprécié.
Ça fait toujours plaisir, Dan. À bientôt.
Bonne soirée. Benoît Beaudoin qui sort la nouvelle aujourd'hui avec sa gang d'RDS à l'effet que demain, il y aura point de presse où Georges St-Pierre va annoncer sa retraite dans le UFC. C'est tout pour l'émission de ce soir. Évidemment, le Canadien va jouer demain contre les Flyers de Philadelphie. Je vous rappelle la transaction. Charlie Coyle passe du Wild du Minnesota aux Bruins de Boston en retour de l'attaquant Ryan Donato et d'un choix de 5e ronde.
Wow!
Et voilà, on ne l'avait pas entendu aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.